C'est sûr que Jésus, pour toi, Jésus est vivant. Et quand on regarde les Écritures saintes, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que la résurrection de Jésus-Christ est vraiment centrale à tout le christianisme. Jésus est allé justement sur la croix, comme Mario le soulignait tantôt, pour prendre sur lui nos péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Et on a commencé à regarder, il y a quelques temps maintenant, une lettre dans le Nouveau Testament, la lettre aux Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui avait fondé cette église, et puis il a resté là pendant plusieurs mois. Finalement, il a quitté l'église, il avait bien formé l'église, il a implanté cette église-là. Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient converties à Jésus-Christ. Et là, il avait quitté, ça faisait quelques années, et il apprend des nouvelles, comme quoi que l'église a certaines questions, et tout ça. Ça va pas bien, on commence à douter de certaines choses. Et donc, Paul va écrire une lettre pour rassurer ses membres de cette église qui est devenue ce qu'on appelle la lettre aux Corinthiens. D'ailleurs, la lettre, dans le fond, il y a 5 gros morceaux, assez simples. Ça parle de toutes sortes de choses, dont il y a un bloc qui parle de l'unité dans l'église, le sexe, même la sexualité, la bouffe, la nourriture, les dons. Et la lettre va terminer sur un aspect qui est sur la résurrection. Parce que voyez-vous, les Corinthiens, certains membres de l'Église ont commencé à douter de ce qui arrivait après la mort. Ils avaient des questions à ce sujet, ils avaient même des doutes quant à la résurrection des enfants de Dieu. Ils ont commencé même à ne pas croire qu'il y avait de la vie après la mort, du moins en ce qui les concerne. Ils ne doutaient pas de la résurrection de Jésus-Christ à ce point-ci, mais ils avaient vraiment des doutes à l'égard de leur propre résurrection. Et on va regarder justement une section, un verset qui dit, et ça l'explique une partie du problème. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, verset 2, ce qui suit, « Si l'on prêche, » alors Paul est en train de dire, « Si on parle que Jésus est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » Et c'était vraiment là le noyau du problème. Alors, Paul a commencé le chapitre 15, cette section qui termine la lettre aux Corinthiens, en les rassurant sur la résurrection, en retournant finalement sur la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qu'il va faire, il va donner 3 évidences, comme on l'a vu la semaine dernière, de la résurrection. Premièrement, l'évidence des vies changées, des vies transformées. On a vu le témoignage tantôt de ce qui s'est passé dans la vie de Mario, et plusieurs ici pourraient, des hommes et des femmes pourraient témoigner du changement, cette transformation qui a lieu lorsque tu demandes à Jésus de venir dans ta vie, que tu places ta foi dans ce sacrifice de Jésus sur la croix, que tu comprends ce qui s'est passé là et que tu le crois pour avoir ton salut. Il y a un changement qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts, ce changement-là, cette transformation-là commence à travers de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxièmement, il y a l'évidence des Écritures saintes. C'est le début du chapitre 15, versets 3 et 4, l'évidence des Écritures saintes. Et troisièmement, l'évidence des témoins. Plusieurs personnes avaient vu Jésus vivant après sa mort. L'apôtre Paul va même mentionner que dans un endroit précisément, à un moment donné, il y a eu plus de 500 personnes qui l'ont vu vivant après la mort. Et donc, la résurrection, ce que Paul est en train de conclure, c'est un fait historique. Et d'ailleurs, comme on le soulignait la semaine dernière par cet avocat qui a fait d'intenses recherches, Edward Clark, il a dit, pour moi, les preuves de la résurrection, après avoir fait une recherche intensive, il dit, pour moi, les preuves, comme avocat, en se servant des évidences, des éléments de preuve dont on se sert dans le système juridique, normalement, il tire la conclusion en disant, pour moi, les preuves de la résurrection sont irréfutables. Ou encore, comme ce détective qui était spécialiste à voir les évidences et tout ça, les éléments de preuve, qui était un athée pur et dur, ne croyait pas du tout en Dieu. Il a examiné le christianisme. Un spécialiste des éléments de preuve a finalement, après avoir fait cet examen sérieux, en se servant des mêmes critères qu'il se sert lui-même dans son travail pour établir la preuve, conclut que Jésus-Christ était bien fils de Dieu. Et il s'est converti à Jésus-Christ lui-même. Il conclut en disant, « Les éléments de preuve sont incontestables et ça ne laisse aucune alternative. possible et raisonnable. Alors, plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. Et dans le milieu juridique, vous savez, la preuve qu'un événement a eu lieu repose sur des témoins. C'est la preuve par témoin. Ça représente le témoignage de personnes qui ont vu l'événement. Et ça, c'est très fort. On s'en sert dans le système judiciaire. Des gens, des témoins oculaires de l'événement qui a eu lieu. Et ça, c'est assez solide. Et là, ici, on dit que 500 personnes sont des témoins oculaires. Ils ont vu vraiment Jésus-Christ vivant après qu'il ait été crucifié. Paul va même dire aux Corinthiens, si vous avez des doutes, vous pouvez même aller les voir. Vous pouvez aller voir ces 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ parce que la plupart sont encore vivants. Une autre preuve très solide, c'est la preuve de l'écrit, les documents. D'ailleurs, c'est le genre de preuve dans le système judiciaire qui a la plus grande valeur. Et c'est ce que nous avons, les Écritures saintes, la parole de Dieu. Et on pense, lorsqu'on recule des centaines d'années avant l'événement de Jésus-Christ, avant la crucifixion et la résurrection, des centaines d'années, on prédisait déjà la mort, la venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors imaginez, c'est miraculeux, c'est des prédictions miraculeuses. Plus de 300 prédictions et prophéties à l'endroit de Jésus qui s'accomplissent, qui se sont accomplies. Alors, Paul commence donc en nous rassurant de la réalité de la résurrection, en nous donnant des preuves de la résurrection dans les versets 1 à 11. Il va continuer en donnant ensuite des conséquences si les chrétiens de Corinthe ne croient pas à la résurrection, qu'il y a la résurrection après la mort. Il va donner 8 conséquences et ces conséquences, il va les énumérer une à la suite de l'autre dans les versets 12 à 20. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous, sinon, moi, je vous encourage à tourner avec moi, sinon, je vais vous lire ce passage. C'est les versets 12 et on va s'arrêter au verset 20. C'est un très long chapitre, ça dit beaucoup de choses et on va plutôt se limiter à ce passage-là, mais on va quand même traverser le chapitre en citant quelques versets ici et là. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Et voici ce que Paul dit. Si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Voici les 8 conséquences si on ne croit pas à la résurrection des morts. Premièrement, si la résurrection n'existe pas, dit Paul, alors on ne parle pour rien dire, on est en train de perdre notre temps ici. Deuxièmement, ça c'est verset 14, nos croyances ne valent rien, verset 14, et on est une gang de menteurs dans le fond. Et c'est ça que Paul vient de dire, on est une gang de menteurs, verset 15, nous sommes des faux témoins. Et non seulement les apôtres sont des menteurs, vous êtes en train de faire Jésus un menteur. Parce que Jésus lui-même, dans le chapitre 11, verset 25, dans l'évangile de Jean, va dire ceci. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors, Jésus lui-même se proclame être la résurrection. Il dit, « Je suis la résurrection, je suis la vie. Et celui qui croit en moi va vivre même s'il meurt. » Alors, si Jésus n'est pas vivant, et s'il ne règne pas sur l'univers, notre foi est inutile, puis pire encore, on est en train de dire que Jésus est un menteur. Parce qu'on ne peut pas juste dire que Jésus est un enseignant, c'est un bon gars, un martyr et tout ça. Ah, c'est un beau modèle à suivre. On ne peut pas parce que Jésus est allé trop loin pour ça, dans ses propos, dans ses déclarations. Il s'est proclamé être lui-même la résurrection et la vie. Puis il dit, celui qui croit pas, celui qui croit en moi va vivre même s'il meurt. Alors, si c'est pas vrai, ça, on a juste, dans le fond, trois options. Un, c'est un menteur. Ou deux, c'est quelqu'un qui a des problèmes ici dans le cerveau, là. Il pense qu'il est la résurrection, mais finalement, il l'est pas. Ou trois, il est vraiment la résurrection et la vie. Et il règne, il est le Seigneur. On s'en sort pas. Une quatrième conséquence de ne pas croire à la résurrection, Paul continue en disant, si Jésus n'est pas ressuscité, on est tous perdus. En d'autres mots, Dieu n'a pas pardonné nos péchés. Parce que voyez-vous, lorsque Jésus est allé à la croix, c'est la raison pour laquelle il est allé à la croix, pour nous offrir le salut, pour régler cette dette qu'il y avait là, ces offenses que nous avons commises, pour régler ça à la croix. Il a pris sur lui nos péchés. Et il est mort, et ensuite il est ressuscité. Et la résurrection confirme que le salut a été accepté par Dieu. Cinquièmement, Paul dit, savez-vous quoi, c'est la résurrection, c'est pas vrai, là? On est les plus grands losers sur la terre. C'est ça qu'il dit. Il dit, verset 29, tous ceux... verset 19, « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Ah, il veut dire, on fait dur. Il est en train de dire, là, on fait vraiment dur. 6, tous ceux qui se font baptiser, inspirés par les martyrs chrétiens, l'ont fait pour rien. Paul dit, verset 29, « S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? » Le mot « pour » ici peut être traduit par « à cause des morts ». D'autres mots, il y avait des gens qui étaient inspirés par le témoignage très puissant des gens qui mouraient martyrs pour Jésus, qui étaient prêts à mourir, à se faire tuer même pour la cause de l'Évangile. Et d'autres étaient inspirés à voir cette assurance et eux-mêmes prenaient la décision de marcher avec Jésus-Christ et se faire baptiser. On a le même phénomène qui se passe dans Philippiens 1, alors que Paul se fait mettre en prison et il dit, des frères, des sœurs ont eu du courage, ont eu de l'assurance à me voir placé dans le prétoire romain, tout ça, et tout le monde savait que c'était pour la cause de Jésus-Christ qu'il était placé là. Et il y a des chrétiens qui ont eu de l'assurance à cause de ça. Et de la même manière, en voyant des gens qui étaient prêts à mourir pour leur foi, ça l'a inspiré d'autres à vraiment suivre le Seigneur. Paul continue, septièmement, il dit, on se donne la peine pour rien. Le sacrifice de soi, les sacrifices qu'on peut faire, la souffrance qu'on subit, les épreuves qu'on a à cause de l'Évangile, c'est rien, ça vaut absolument rien si on ne croit pas à la résurrection. Si la résurrection n'existe pas, on fait tout ça pour rien. Alors, on devrait être une party tous les jours. Verset 32, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain on va mourir. En d'autres mots, ça donne absolument rien. Il n'y a pas de conséquence à tout ce qu'on fait. Huitièmement, on vit dans le péché, verset 33 et 34. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à se produire dans la vie de l'Église de Corinthe. C'est parce qu'ils ne croyaient pas à la doctrine de la résurrection. Leur vie, ils ont commencé à se laisser aller. Voyez-vous l'impact de ce qu'on croit? Parce que ce qu'on croit affecte notre vie, notre comportement et notre façon de vivre. Paul va dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. En d'autres mots, parce qu'ils ne connaissaient pas exactement les Écritures saintes et la doctrine. Il y a des gens qui disent « Ah, la doctrine, c'est plate », mais sais-tu quoi? C'est la doctrine qui fait toute la différence, beaucoup de différence dans ta façon de vivre. C'est pas tout, ça prend l'obéissance, évidemment, la foi, l'aide du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans ta vie. Absolument, mais ça commence avec la doctrine. Il faut connaître Dieu, il faut connaître ce qu'il enseigne, et ça va avoir un impact dans ta façon de vivre. Dans ta façon de penser va avoir un grand impact dans ta façon de vivre. Absolument. Alors, ce qu'on croit va affecter notre vie. Maintenant, après avoir donné trois preuves de la résurrection et huit conséquences de ne pas y croire, Paul montre maintenant comment la résurrection va nous transformer. La résurrection nous transforme. Verset 20. Après avoir dit, si Jésus n'est pas ressuscité, ça a toutes des conséquences si vous ne croyez pas que vous allez ressusciter aussi. Mais là, verset 20, il arrête puis il dit non. En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En d'autres mots, c'est le premier. Et il a prouvé, il a démontré que si lui est mort, tous les enfants de Dieu aussi si lui est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter un jour. Alors, en d'autres mots, Jésus est bel et bien vivant. Il règne. Et parce qu'il est ressuscité, tous ceux qui auront cru en lui, qui auront cru qu'il est le Sauveur et le Seigneur, vont ressusciter à leur tour un jour. C'est la preuve, la résurrection de Jésus est la preuve que nous allons ressusciter si nous avons placé notre foi en lui. Et la résurrection de Jésus-Christ nous transforme. La résurrection de Jésus signifie que si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu vis une vie différente. Ça a un impact dans toute ta vie, ça. C'est une transformation qui va commencer à l'intérieur de notre cœur, puis ça va affecter tous les aspects de notre vie. Et c'est la puissance de la résurrection qui s'opère en nous. Et c'est la raison pour laquelle Paul va commencer le chapitre au verset 10, dans le même chapitre, il va dire ceci, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » Vous remarquez que Paul ne dit pas « C'est par la grâce de Dieu que je pense ce que je pense. » Ou « C'est par la grâce de Dieu que je fais ce que je fais. » Non, ce que Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. En d'autres mots, ma vie a été changée. Ça touche toute ta vie. C'est pas juste ce que tu vas faire, c'est pas juste ce que tu penses. Il dit, tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je suis une nouvelle personne. Je suis une personne changée. Et c'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, comment la résurrection nous change? Premièrement, la résurrection nous rend courageux. On le voit par la vie de l'apôtre Paul, quel témoignage. Mais on l'a vu aussi avec d'autres personnes. La semaine dernière, on faisait allusion, justement, on parlait de Pierre, comment Pierre était découragé après la crucifixion de Jésus. Tous les disciples étaient découragés, mon ami. Ils avaient la mine basse. Ils étaient découragés. Ils étaient complètement écrasés. Et lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, lorsqu'il est revenu entre les morts, c'était même plus les mêmes personnes. Ils ont complètement changé. Et l'apôtre Paul est devenu un grand évangéliste. Il a proclamé l'évangile à des milliers de personnes. Et 3000 personnes sont venues au Seigneur. D'autres personnes ont eu le courage même de s'afficher publiquement pour leur foi. Il y en a qui sont morts, même martyrs, à cause de Jésus-Christ. Ça nous transforme complètement. Et on voit même l'apôtre Paul, c'est la même chose. Regardez Paul. Paul ne donne pas beaucoup de détails, mais voici ce qu'il dit au verset 30. Il dit, « Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Vous savez, la puissance de la transformation a pris un gars comme Paul et en a fait un héros. Complètement changé. On n'a pas beaucoup de détails ici dans ce passage, dans 1 Corinthiens 15, mais on a plus de détails ailleurs, dans 2 Corinthiens, par exemple. Regardez quelques-unes des épreuves, des dangers auxquels il a fait face, ce Paul-là. Il dit dans 2 Corinthiens 11, « J'ai connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, les emprisonnements, j'ai été souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups de fouet moins 1, c'était la loi. 3 fois, j'ai été fouetté. » Puis vous savez, des fois, il y a des petits bouts d'ossement, puis des bouts de métal, ça labourait le dos. Paul a subi ça. « J'ai été en danger sur des fleuves, en danger de la part des brigands, de mes compatriotes, en danger dans les villes, dans le désert, sur la mort. J'ai été exposé à de nombreuses privations du sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Je suis assailli chaque jour aussi par le souci de toutes les églises. » Hey, mon ami! Puis, vous savez quoi? Paul fait face à ça, il fait face à la musique. Et c'est la puissance de résurrection qui a tout changé ça chez Paul. Il était capable de faire face à la musique, à l'anxiété, aux inquiétudes de la vie, aux épreuves et à tous les dangers auxquels il a fait face à cause de la résurrection. Vois-tu, la résurrection nous donne du courage. C'est une des transformations qui s'opère en nous. C'est le courage. Et on le voit certainement dans la vie de Paul et dans la vie de Pierre. Et Paul est en train de dire, vous savez, vous avez vu tous ces dangers-là? Mais rien m'arrête, moi. Rien m'arrête. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. Parce qu'il était convaincu que Jésus est vivant et qu'il règne. Il pouvait faire face à la musique. Le fait de savoir que Jésus est vivant, le fait de savoir que Jésus l'aime, s'occupe de lui, il est souverain, il a un plan et nos vies sont entre ses mains. Alors, quoi qu'il arrive, on se repose dans cette vérité que Dieu dit, ta vie est dans mes mains, je sais exactement ce qui se passe. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe dans ta vie. Ça a un impact, évidemment. Ça a des incidences sur nous autres. Alors, lorsqu'on est devant des situations qui sont difficiles, qui nous portent à l'inquiétude, à l'anxiété, rappelons-nous ces vérités-là. À quel point Dieu nous aime, au point d'envoyer son Fils sur la croix pour nous sauver et nous réchapper. Et nous sauver pour être avec lui pour l'éternité. C'est pour ça que Romains 8, 31 dit, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Vrai? Si Dieu est pour toi, qui? Ça arrête là. Ça arrête à Dieu, là. Il n'y a plus rien après, là. Tu comprends? Si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Lui qui n'a pas épargné. Il est allé jusqu'à ce point-là. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Alors, quand on fait face à des temps difficiles, Paul nous dit, rappelle-toi à quel point Dieu t'aime. Il est allé jusqu'à donner son fils pour toi. Là. Si Jésus est ressuscité, alors tu peux faire face à n'importe quelle épreuve, à n'importe quoi. Tu as toutes les raisons pour être courageux, parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Et un Dieu qui t'aime. La puissance de la résurrection nous transforme en nous rendant plus courageux. Mais en plus, elle nous transforme en nous libérant de la culpabilité. C'est ce que Paul dit ici dans ce chapitre. C'est Mark Twain qui disait, « L'homme est le seul animal à rougir. » Du moins, il devrait, ajoute Twain. Le péché entraîne la culpabilité. Comment régler la culpabilité? Mais